D'habitude, quand on parle d'un diagnostic médical, il y a vraiment cette attente d'une précision presque mathématique. C'est rassurant, au fond.
Ouais, c'est le confort de la biologie, quoi.
C'est ça. Tu tombes, tu te casses le bras, la radiographie te montre une ligne blanche bien nette sur un fond noir. Le médecin a juste à pointer son stylo sur le cliché en disant « bah voilà, le problème est exactement ici ».
C'est binaire, c'est cassé ou c'est intact. Et l'esprit humain adore ce qui est visible, tu vois, ce qui peut être rangé dans des petites cases bien étanches.
Absolument. Mais dès qu'on s'aventure dans le domaine du développement psychologique, de la persuasion, ou même des comportements humains les plus enfouis, bah la machine à rayon X, elle sert plus à rien.
Non, c'est sûr.
Le paysage devient extrêmement trouble, complexe, plein de zones grises. Et c'est justement parce que notre esprit est une machine à rationaliser qu'on a besoin de prendre du recul.
Tout à fait.
Alors bienvenue dans cette nouvelle plongée au cœur de notre émission. Aujourd'hui, on explore une source fascinante qui est très très loin de la simplicité d'une radiographie. On va se pencher sur les notes de la conférence académique numéro 12 du professeur Robert Van Hooy.
Des notes qui portent sur l'histoire de l'Ancien Testament ?
Exactement. Et plus spécifiquement sur le fameux chapitre 3 de la Genèse.
Et c'est vraiment un texte fondamental, enfin bien au-delà de sa simple dimension théologique en fait.
Oui. Et c'est notre mission du jour pour ceux qui nous écoutent. L'objectif de cette session, c'est pas du tout de ressasser la version édulcorée, presque enfantine, de l'histoire d'Adam et Ève.
Genre la fameuse pomme rouge et le serpent qui parle des livres d'images ?
Voilà, c'est pas ça du tout. Notre but, c'est vraiment de disséquer minutieusement, grâce aux travaux de Van Hooy, le processus psychologique de ce qu'on appelle la chute. On va voir comment une capitulation intellectuelle se met en place, étape par étape, et comprendre ses conséquences totalement inattendues sur les relations humaines.
Et je pense que c'est un cadre d'analyse absolument essentiel pour apprécier la profondeur de cette source. Il faut bien comprendre, pour ceux qui s'y intéressent, que Van Hooy n'aborde pas ce récit comme la simple chronique d'une règle arbitraire qui aurait été enfreinte, tu vois.
Ouais.
Il lit vraiment ce texte comme une autopsie de la nature humaine. Ce qui est décrit, c'est l'anatomie d'une manipulation, la déconstruction progressive d'une relation de confiance et finalement l'origine de l'aliénation entre les individus.
C'est fascinant. Et pour quiconque s'intéresse à la psychologie sociale, ou je vais parler aux techniques de manipulation moderne, bah, ces notes révèlent une dynamique qui résonne d'une façon étonnamment contemporaine.
Ah oui, complètement actuel.
Parce que pour comprendre le résultat dramatique de cette histoire, faut pas regarder l'acte final. Faut observer comment tout a commencé. La capitulation d'Ève, c'est pas un interrupteur qu'on bascule d'un coup sec.
Non, pas du tout.
Le texte nous montre une vraie ingénierie de la persuasion. Tout commence par la mécanique du doute, c'est bien ça, hein ?
Exactement. L'auteur met d'ailleurs en lumière la subtilité vraiment terrifiante de cette approche. Le serpent, qui représente un peu cette voix tentatrice, il commence pas du tout par une attaque frontale contre l'autorité divine.
Il débarque pas en disant « Dieu est un menteur ».
Voilà, c'est ça. Il pose une simple question qui a l'air presque philosophique, du genre « Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?»
C'est subtil.
Très subtil. Ce qui est redoutable ici, c'est l'insinuation. La question sous-entend habilement que bah, si une autorité interdit une chose en apparence inoffensive, cette autorité, elle peut pas être foncièrement bonne ou aimante.
Ouais, je vois.
C'est une façon d'introduire un petit virus dans le système de croyance de la personne. Très en douceur.
Mais attends, j'essaie de me mettre à la place d'Ève à ce moment précis. Sa première réaction, c'est pas de céder.
Non.
Au contraire, elle répond pour rectifier le tir et défendre la consigne de Dieu. Elle explique qu'ils peuvent manger des fruits, sauf celui de l'arbre au milieu du jardin. Donc à première vue, on pourrait se dire que le virus du doute n'a pas fonctionné. Elle reste super loyale, non ?
Bah, c'est la conclusion logique qu'on pourrait tirer si on survole le texte, effectivement. Mais Van Hooy pointe un petit détail psychologique fascinant dans sa réponse.
Ah bon ? Lequel ?
En fait, dans le chapitre précédent de la Genèse, la consigne initiale de Dieu était ultra simple. C'était juste « tu n'en mangeras pas ».
D'accord.
Mais quand Ève reformule cette règle au serpent, elle y ajoute une clause qui n'existait pas du tout. Elle déclare « Dieu a dit « vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point ». De peur que vous ne mouriez.
Attends, le « vous n'y toucherez point », c'est elle qui l'invente.
Exactement. C'est une invention totale de sa part.
Ah, c'est fou ça. Et c'est là que la psychologie humaine devient un peu ironique. Enfin, presque amusante si c'était pas si tragique pour eux.
Ouais, c'est très parlant.
Parce que si on observe nos propres comportements aujourd'hui, cette réaction, ça ressemble à s'y méprendre à celle d'un adolescent qui est hyper frustré face à un parent strict, tu vois ?
Mais tellement.
Quand on commence à ressentir de l'irritation face à une règle, on a presque toujours tendance à l'exagérer pour en souligner le côté injuste ou absurde.
Genre, non seulement j'ai pas le droit de sortir ce soir, mais en plus j'ai carrément plus le droit de respirer dans cette maison.
C'est exactement ça. Du coup, cette exagération de la règle par Ève, c'est pas juste une petite erreur de mémoire. C'est vraiment le symptôme d'un ressentiment naissant.
C'est ça. Et l'analyse de Vanoy, elle s'oriente exactement vers cette lecture-là. Bon, il conseille de pas être dogmatique non plus, mais cette déformation, elle suggère fortement que le doute a bel et bien fait son travail.
Le virus est entré, quoi.
Voilà. L'exagération de la restriction, ça trahit une irritation interne face au fait d'être limité. Le serpent n'a fait que gratter la surface et paf, la fissure est apparue. Ève défend peut-être la lettre de la loi en apparence, mais son petit ajout révèle qu'elle commence à percevoir cette loi comme étouffante ou arbitraire.
Donc, la loyauté de façade cache déjà une rébellion interne. Et j'imagine que pour un manipulateur habile, c'est le feu vert absolu.
Ah bah oui, totalement.
Une fois que ce ressentiment subtil est installé, le terrain est meuble. C'est le moment de frapper plus fort.
Précisément. Le serpent sent très bien que la confiance en la bonté de l'autorité s'est fissurée. Du coup, il passe à l'accusation directe. Il affirme, en contradiction totale avec la consigne initiale, « Vous ne mourrez point ».
Boum. L'autorité est ouvertement traitée de menteuse.
C'est ça. Mais traiter l'autre de menteur, c'est pas suffisant pour faire basculer quelqu'un vers l'action. Il faut lui offrir une alternative hyper séduisante. Et c'est là qu'on entre dans ce que Vanoy identifie comme l'étape la plus périlleuse, le mélange toxique de la vérité et du mensonge.
Le fameux demi-mensonge. Le pire de tous, en fait. Mais comment ça se matérialise dans le récit, ça ?
Si on veut utiliser une analogie moderne, pour ceux qui écoutent, c'est le principe exact d'une attaque de hameçonnage informatique, tu sais, le phishing.
Ah ouais, excellent parallèle.
Pour qu'un email frauduleux fonctionne et que tu cliques, il faut qu'il contienne 90% d'éléments véridiques. Le vrai logo de ta banque, les vraies couleurs, une typographie impeccable.
Ouais, tout a l'air normal.
Mais la tromperie, elle réside dans les 10% restants. Le petit lien cliquable qui cache le logiciel malveillant. Dans la Genèse, le serpent utilise littéralement cette même technique.
Et il dit quoi exactement ?
Il affirme « Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. »
Ok, mais alors la partie véridique de cet email de phishing spirituel, c'est laquelle ? Parce que honnêtement, on a toujours l'impression que le serpent y ment de A à Z dans cette histoire.
Eh bien l'ironie, qui est très bien soulignée par les notes, c'est que c'est factuellement vrai.
Ah bon ?
Oui. Plus tard dans le récit, Dieu lui-même confirme cette réalité en disant que l'homme est devenu comme l'un d'eux pour la connaissance du bien et du mal. Donc techniquement, le serpent n'a pas menti sur le résultat cognitif.
Waouh ! Alors où est le piège psychologique du coup ? Il est où, le logiciel malveillant ?
Le piège, il réside dans la promesse sous-jacente d'autonomie. Le serpent présente cette omniscience comme un avantage extraordinaire, genre une promotion légitime pour l'humanité.
Alors que ça ne l'est pas.
Non, en réalité, c'est une usurpation pure et simple. Dans le contexte du texte, connaître le bien et le mal, ça ne veut pas juste dire avoir la capacité intellectuelle de les distinguer.
D'accord, ça veut dire quoi alors ?
Ça signifie s'arroger la place du juge suprême. C'est revendiquer le droit de déterminer par soi-même ce qui est juste ou faux, sans dépendre d'un créateur. C'est l'illusion vertigineuse de l'indépendance totale.
Oui, c'est profond. Et ce qui nous amène à la déconstruction du passage à l'acte lui-même. Une fois que cette réalité alternative est acceptée par l'esprit, on se met à rationaliser. On a cette image d'Ève qui observe le fruit. Et la source fait un parallèle que je trouve vraiment fascinant avec l'anatomie générale de la tentation humaine.
Oui, Vanoy établit un lien direct et super éclairant avec un concept qu'on retrouve plus tard dans les écrits bibliques, notamment dans la première épître de Jean, chapitre 2.
Qui catégorise les attraits du monde, c'est ça, hein ?
Voilà. Il y a trois choses. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et c'est exactement ce triptyque qui s'active dans la psychologie d'Ève. Elle observe le fruit et son jugement s'aligne sur ces trois axes.
Ok, décortiquons ça un peu pour être clair. D'abord, le texte dit que le fruit est bon à manger. Ça, c'est la convoitise de la chair. Purement physiologique. L'appétit, la satisfaction sensuelle immédiate, quoi.
Tout à fait. Ensuite, le texte note qu'il est agréable à la vue. Ça, c'est la convoitise des yeux. L'aspect esthétique, le charme superficiel qui captive l'attention.
Ouais, le beau design du produit, en quelque sorte.
Exactement. Et la troisième force, de loin la plus puissante, c'est qu'il est précieux pour ouvrir l'intelligence. Et là, on est en plein dans l'orgueil de la vie, cette promesse d'élévation, l'orgueil intellectuel dont on parlait juste avant.
Donc l'esprit rationnel, les sens et l'ego sont désormais parfaitement alignés contre la consigne initiale de Dieu.
Voilà, la mécanique s'emballe. Elle en mange et elle en donne à Adam. qui était avec elle.
Et j'aimerais m'arrêter un petit instant sur une théorie du théologien John Murray qui est mentionnée dans les documents de Van Hoy. Ça vient complètement bouleverser la façon dont on perçoit cette chronologie.
Ah oui, la théorie du vrai point de rupture ?
C'est ça. Murray avance que le véritable péché, la véritable rupture, elle s'est probablement produite bien avant que les dents ne touchent la chair du fruit. Il parle du moment précis où il y a eu un, et je cite, « accueil sympathique des suggestions du serpent dans l'esprit d'Ève ».
Ouais, c'est un concept brillant.
Le moment où elle s'est dit au fond d'elle-même, genre « tiens, il a peut-être raison, je ferai un excellent juge ».
C'est un point de bascule philosophique majeur que Van Hoy aborde. L'action physique de prendre et de manger, bah finalement, c'est que le reçu imprimé d'une transaction qui a déjà eu lieu dans l'esprit.
Le reçu imprimé, j'adore cette image.
Dès cet accueil sympathique, la reddition mentale, elle est totale. L'acte de manger n'est que la conclusion inévitable d'un long, long processus de déconstruction interne.
Mais si l'effondrement interne est la véritable chute, bah, ça rend l'acte physique presque secondaire. C'est fascinant parce que ça change tout. On a donc cette lente capitulation intellectuelle, avec cette promesse incroyable de devenir des êtres suprêmes, éclairés, totalement autonomes. On s'attendrait à ce que l'acte, la morsure, soit suivi d'une apothéose, quoi.
Genre une explosion de conscience divine.
Exactement. Une illumination transcendante. Mais la réalité qui suit ce passage à l'acte est, selon les notes de Van Hoy, radicalement différente, non ?
Ah bah, c'est même l'antithèse d'une illumination. Le contraste entre les promesses grandioses du hameçonnage et la brutalité du résultat, il est vraiment saisissant. Le texte dit très simplement « les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus ».
C'est abrupt.
Très. Mais avant d'analyser cette nudité, il y a un mythe monumental que l'auteur s'empresse de déconstruire. Et c'est vraiment crucial de le préciser pour ceux qui nous écoutent.
Vas-y, on t'écoute.
Ce moment précis, culturellement, il a très souvent été interprété, à tort, comme la découverte de la sexualité.
Oh oui, absolument. Dans l'inconscient collectif, je vais dire la pomme croquée, c'est presque toujours le symbole de l'éveil sexuel ou de la perte de l'innocence charnelle.
Eh bien, c'est une lecture totalement erronée du texte source. Van Hoy rappelle avec une grande fermeté que la sexualité n'a jamais été le résultat de cette chute.
Ça existait déjà.
Exactement. Dans les chapitres précédents de la Genèse, l'ordre de se multiplier et de remplir la terre avait déjà été donné par Dieu. La dimension sexuelle existait et elle était considérée comme parfaitement saine et légitime.
Donc le fait d'être nu n'a rien à voir avec ça.
Non, cette soudaine prise de conscience de leur nudité physique, ça signale pas l'invention de la pudeur sexuelle telle qu'on l'entend parfois aujourd'hui, ça signale l'apparition brutale de l'aliénation.
L'aliénation entre deux êtres humains qui, genre quelques instants plus tôt, étaient en parfaite harmonie.
C'est ça.
Si on cherche une analogie pour illustrer ce basculement, on pourrait penser à cette sensation physiologique extrêmement violente qu'on a tous connue un jour, tu sais, ce creux glacé dans l'estomac qu'on éprouve quand on se réveille soudainement d'un moment de rage aveugle.
Oh oui, je vois très bien.
Et là, on réalise qu'on vient de hurler des mots irréparables à un proche. D'un seul coup, la colère retombe, le vernis craque complètement et on se retrouve nu, émotionnellement parlant, exposé dans toute notre méchanceté et notre imperfection face au regard de l'autre. Le besoin soudain d'Adam et Ève de se cacher avec des feuilles de figuier cousues à la hâte, bah c'est exactement ça en fait. Hein.
C'est une excellente métaphore. C'est l'instinct paniqué de dissimuler sa vulnérabilité. Cette vulnérabilité, qui était auparavant totalement naturelle et paisible, elle devient subitement insupportable.
Et pourquoi elle devient insupportable ?
Parce que le regard de l'autre n'est plus perçu comme bienveillant par défaut. L'innocence relationnelle est brisée en mille morceaux. Avant cet événement, le texte précisait bien qu'ils étaient nus et n'en éprouvaient point de honte.
La transparence totale était possible, quoi.
Oui, car la confiance était absolue. Mais désormais, la honte fonctionne comme une sorte de système d'alarme émotionnelle. Elle est déclenchée par une conscience ultra aiguë de la culpabilité et la certitude que l'harmonie est détruite.
Et c'est ici que l'analyse de Van Hoy prend une direction qui, honnêtement, m'a complètement pris au dépourvu quand j'ai lu les sources.
Ah oui ? Sur quel point ?
Sur la suite, parce que cette nouvelle aliénation, elle introduit une dynamique profondément sombre dans l'histoire humaine. L'autre n'est plus un partenaire en parfaite harmonie. L'autre devient soudainement une menace potentielle.
Oui, et c'est la tragédie centrale mise en évidence par la source. La nature humaine, une fois qu'elle est déconnectée de son autorité morale initiale, elle devient fondamentalement orientée vers l'ego.
Vers soi-même.
C'est ça, et par extension, orientée vers l'exploitation de son prochain. L'autre devient un moyen de satisfaire ses propres besoins, qu'ils soient psychologiques, matériels ou sexuels. Vanneau y fait d'ailleurs une petite digression hyper intéressante vers l'épisode ultérieur de Noé et de ses fils.
Pour illustrer ce danger.
Oui, pour illustrer comment l'exposition de la nudité peut très vite dégénérer en une forme d'exploitation ou de perversion, même au sein d'une même famille. Et c'est face à cette nouvelle propension naturelle à utiliser l'autre que le concept de la honte subit une transformation radicale dans l'analyse de Vanneau.
Et franchement, c'est le point le plus contre-intuitif de toute cette exploration, parce que si on écoute le discours ambiant du développement personnel d'aujourd'hui, le but ultime de la psychothérapie moderne, ça semble être l'éradication totale de la honte.
C'est clair. On nous répète partout que la honte, c'est toxique.
Voilà, qu'il faut s'en libérer pour être pleinement soi-même. Mais selon l'analyse de ce texte antique, la honte, elle n'est pas du tout présentée comme une malédiction perpétuelle. Elle est décrite comme un bouclier.
Et même comme une véritable bénédiction divine, paradoxalement.
C'est fou de le voir comme ça.
Oui, mais dans ce monde désormais dysfonctionnel, l'auteur affirme que la honte agit comme un frein indispensable. Elle nous protège du danger moral et de notre propre capacité de destruction.
Ouais.
Imagine un instant une société humaine qui serait totalement dépourvue de honte. Ce que l'on pourrait qualifier d'impudeur effrontée ou de cynisme absolu, tu vois.
Ça ferait peur.
Selon cette grille de lecture, cette absence totale de retenue conduirait inévitablement à une exploitation généralisée, brutale et sans aucun filtre des individus les uns par les autres, et particulièrement dans la sphère de l'intimité.
Donc si je te suis, le vêtement originel, il n'est pas là pour cacher quelque chose de sale, mais pour instaurer une frontière de sécurité vitale entre les gens.
C'est exactement la fonction première du vêtement physique que Dieu lui-même finit par fournir au couple, tu sais, sous forme de tunique de peau.
D'accord.
C'est la matérialisation concrète d'une distance de sécurité, une distance nécessaire pour permettre aux relations humaines de survivre dans un monde psychologiquement fracturé.
Alors, j'entends bien cet argument de la frontière de sécurité, il est fort, mais il y a un aspect qui me fait un peu tiquer et que la source effleure également, c'est la question de la relativité culturelle.
Oui, c'est une vraie question.
Parce qu'on sait pertinemment, d'un point de vue anthropologique, que dans certaines cultures humaines, la honte liée spécifiquement à la nudité physique, elle est complètement inexistante.
Tout à fait.
Des tribus entières évoluent sans vêtements, sans que leur société ne s'effondre dans une espèce d'orgie d'exploitation mutuelle. Donc, si le vêtement physique est censé être cette barrière protectrice universelle héritée de la chute, comment la théorie de Vanneau résiste-t-elle face à ces différences culturelles qui sont, ma foi, indéniables ?
L'objection est tout à fait valide et c'est bien pour ça que l'auteur de la source ne l'élude pas du tout. Il reconnaît volontiers que les manifestations spécifiques de la honte, elles sont intimement liées à l'éducation et au conditionnement social de chaque culture.
Donc le tissu lui-même n'est pas la clé.
Exactement. Le vêtement en lui-même, qu'il s'agisse d'une feuille de figuier ou d'un costume trois pièces hyper formel, il n'est pas magique. Il n'est que la manifestation physique d'un besoin de frontière.
Je vois.
Si une culture spécifique ne place pas cette frontière au niveau de la dissimulation de l'épiderme, eh bien elle construira inévitablement cette barrière ailleurs.
Par quel moyen, par exemple ?
À travers des tabous verbaux, des codes de conduite sociaux extrêmement rigides ou des règles de parenté strictes. La frontière se déplace, c'est tout, mais le besoin psychologique de se protéger de l'exploitation pure, lui, il reste universel. Le tissu symbolise simplement la reconnaissance tragique du fait que on ne peut plus souffrir totalement et aveuglément à l'autre sans prendre le risque d'être détruit.
C'est une nuance vraiment très éclairante. Et d'ailleurs, les notes de Vanneau apportent aussi une petite touche de lumière concernant la restauration de cette intimité, non ? Il y a quand même une forme d'espoir, la possibilité de faire tomber partiellement ses défenses.
Oui, heureusement, il y a une lueur d'espoir. Vanneau souligne que dans le cadre très spécifique d'une relation fondée sur ce qu'il définit comme un véritable amour altruiste, un amour biblique, où les deux individus cherchent le bien de l'autre et s'efforcent d'obéir à des principes éthiques supérieurs, la fonction de la honte peut grandement s'effacer.
C'est beau, ça.
Dans l'intimité protégée d'un tel lien, les êtres humains peuvent s'approcher de manière furtive de cet état de transparence d'avant la chute. Mais, et il y a un gros mais, l'auteur maintient que dans notre condition humaine actuelle, cette restauration, elle ne peut jamais être absolue ou permanente.
Ce qui nous ramène à la beauté complexe de ce texte ancien, qui se révèle être un manuel de psychologie d'une acuité redoutable. Je pense qu'il est temps de faire le bilan pour ceux qui nous écoutent. Si on doit synthétiser les grandes pépites intellectuelles qu'on a extraites de cette analyse du chapitre 3 de la Genèse.
Il y en a plusieurs, oui.
Premièrement, l'anatomie de la tentation. On a vu que ce n'est jamais une attaque frontale. C'est l'injection subtile du doute sur les intentions de l'autorité, suivie d'un demi-mensonge redoutable qui flatte notre ego en promettant l'autonomie totale. Le vrai combat ne se déroule pas au moment de l'acte physique, mais dans l'esprit. Lors de ce fameux accueil sympathique de l'idée corruptrice.
L'acte de cette rupture, c'était pas la découverte de la sexualité humaine, mais bel et bien la naissance de l'aliénation.
La séparation psychologique, en somme.
Voilà. C'est l'introduction de la méfiance, de la vulnérabilité douloureuse et de la distance entre des êtres qui, jusque-là, vivaient dans une transparence parfaite.
Et enfin, troisièmement, il y a ce retournement de perspective fascinant sur la notion même de honte. Loin d'être la toxine que notre culture moderne cherche à éradiquer à tout prix, la honte nous est présentée ici comme un mécanisme de survie indispensable.
Une barrière instinctive, oui.
T'es autrui dans un monde moralement altéré. Comprendre ces dynamiques, ça nous offre une grille de lecture percutante, non seulement pour analyser comment la manipulation opère sur nous aujourd'hui, mais aussi pour comprendre pourquoi on a un besoin si viscéral d'établir des frontières dans nos relations humaines.
La pertinence contemporaine de ce texte, elle est indéniable, tu vois. L'architecture de notre psychologie sociale n'a pas vraiment changé depuis la rédaction de ces textes.
C'est fou quand on y pense.
Les mécanismes de doute, de rationalisation de nos pulsions et la peur viscérale du regard de l'autre, bah, ce sont encore les moteurs cachés d'une grande partie de nos comportements quotidiens, qu'on en soit conscient ou non.
Absolument. Et du coup, ça m'amène à une réflexion finale pour clore cette session. En repensant à cette fameuse chute qui a introduit la peur de l'exploitation dans l'ADN de nos relations, et à ce besoin hyper instinctif de coudre des feuilles de figuier pour se protéger du regard des autres, on peut observer notre monde actuel sous une lumière totalement différente.
Comment ça ?
On peut légitimement se demander dans quelle mesure toutes les structures sophistiquées de nos sociétés modernes, je pense à nos règles complexes de politesse, de bienséance, les clauses interminables de nos contrats juridiques, et même, tu vois, nos lois contemporaines les plus pointues sur la protection de la vie privée, le droit à l'oubli numérique, la sécurisation de nos données.
Ah, je vois où tu veux en venir.
Dans quelle mesure tout cet arsenal ne représente-t-il, au fond, que les versions industrielles et numériques de ces toutes premières feuilles de figuier ? Des barrières toujours plus complexes, cousues à la hâte par l'humanité siècle après siècle, pour nous protéger de cette vulnérabilité terrifiante, celle d'être entièrement, irrémédiablement et dangereusement exposé au regard de l'autre. C'est une réflexion fascinante sur laquelle s'attarder aujourd'hui. Fin de notre exploration. Merci de nous avoir accompagnés.